est 22h, passé de 15 secondes, vous écoutez Europe 1, belle soirée à vous. Tout de suite, le journal de François Geffrier. Bonsoir François.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. À la une ce soir, 3 ministres, 3 heures d'audition. Christophe Castaner, Bruno Le Maire et Laurent Nunez sont passés sur le grill des sénateurs ce soir. Ils ont expliqué leur stratégie de maintien de l'ordre et de soutien économique aux entreprises touchées par le mouvement des Gilets jaunes. On écoutera le ministre de l'Intérieur dès le début de ce journal. Et si les Gilets jaunes avaient donné un coup de pouce à l'économie française, sans aller jusque-là, le très sérieux Institut de la Statistique, l'INSEE, parle ce soir d'une consommation soutenue par les mesures du gouvernement en décembre, après les 4 premiers samedis du mouvement. Aujourd'hui, c'est la CGT et FO qui mobilisaient pour défendre le pouvoir d'achat et les services publics. On a compté 17 500 manifestants à Paris, vous entendrez certains d'entre eux. À la une également, le pape refuse la démission du cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, mais celui-ci se retire quand même, au moins provisoirement. Tuée pour un téléphone portable, l'étudiante de 21 ans poignardée dimanche à Marseille a reçu l'hommage des habitants en présence de sa famille. Dans ce journal, le procès des militants véganes à Lille après les dégradations chez les Bouchers du Nord, le PSG qui s'en tire bien pour l'instant côté fair play financier et Florent Manaudou qui ne peut pas s'empêcher de se rejeter à l'eau. Dans un quart d'heure, la météo, le point sur les marchés avec boursier.com et l'interview Écho d'Europe 1 sans modération. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir le PDG d'Heineken France, Pascal Sabrier.
Europe 1.
Ils ont donc été assaillis de questions cet après-midi face à la commission des lois et la commission des affaires économiques du Sénat. Les ministres de l'économie et de l'intérieur ont dû justifier leur politique face aux violences et aux dégradations liées au mouvement des Gilets jaunes. 3 heures de questions-réponses. Christophe Castaner a tenté de se justifier tout en reconnaissant qu'il savait que la manifestation de samedi dernier était à fort risque.
Nous avions prévu, et c'est presque un paradoxe que de vous le dire, mais nous devons l'assumer, nous avons prévu ce niveau de participation et ce niveau de violence. Vous nous avez interrogé sur le renseignement, Monsieur le Président, je vous le dis, nos renseignements étaient bons et notre dispositif, plus de 5000 policiers et gendarmes, était très important. Il n'y a donc pas eu en amont un problème d'anticipation. Devant les notes qui nous remontaient sur les risques de débordement, nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire, la plus grande fermeté. Au regard des événements de la journée, un constat s'impose. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. Il y a eu des dysfonctionnements, ils ont causé des violences. Alors nous avons immédiatement et précisément examiné les événements et pris les décisions qui s'imposaient.
Christophe Castaner au Sénat avec Adrien Beck pour Europe 1. Le ministre de l'Intérieur très critiqué depuis le week-end dernier. Ce matin, c'est Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes qui a réclamé sa démission. Il l'accuse d'être le ministre du laxisme. Il doit s'en aller, déclare Jordan Bardella. Il est totalement incapable d'assurer la sécurité des manifestants. L'état de droit n'existe plus aujourd'hui, dit-il. Alors ce samedi était l'acte 18 du mouvement. Souvenez-vous, cela a commencé le 17 novembre 2018, quelques semaines plus tard, le 10 décembre, Emmanuel Macron annonçait une série de mesures destinées à redonner rapidement du pouvoir d'achat aux Français, notamment pour les classes populaires. Et bien ce soir, l'INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, a donné ses dernières estimations de l'état de l'économie française. Olivier Samain, vous avez assisté pour Europe 1 à cette présentation avec une petite surprise liée justement aux Gilets jaunes.
Mais oui, l'économie française peut presque dire merci aux Gilets jaunes. Les mesures d'urgence annoncées au mois de décembre par Emmanuel Macron ont mis du beurre dans les épinards, beaucoup de beurre. Qu'il s'agisse de la prime d'activité revue à la hausse et élargie pour les actifs profs du SMIC, qu'il s'agisse de l'exonération d'impôts et de cotisations salariales sur les heures sup, ou qu'il s'agisse de cette fameuse prime exceptionnelle exonérée de charges sociales et défiscalisée. À ce jour, dit l'INSEE, plus de 2 millions de salariés du secteur privé ont perçu cette prime, autrement dit, un salarié sur 10, et ont touché en moyenne 449 euros. Tout ça a dopé les revenus et donc le pouvoir d'achat qui, dit l'INSEE, devrait progresser de 0,7% au premier trimestre avant de se stabiliser au deuxième. Et qui dit pouvoir d'achat en hausse, dit consommation bien orientée, même si les Français ne vont pas dépenser tout de suite l'intégralité de ce qu'ils ont gagné. C'est un phénomène classique. Il n'empêche, c'est en grande partie grâce à la consommation soutenue des ménages que l'économie française va bien s'en tirer d'ici à l'été.
Olivier Samain du service économie et sociale d'Europe 1. Alors aujourd'hui, quelques gilets jaunes étaient de sortie dans les rues de France, mais ce sont surtout les cortèges syndicaux plus traditionnels qu'on a vu défiler. On a noté une grève assez suivie dans l'éducation nationale. Un enseignant sur 4 était en grève selon le ministère. Plus généralement, la CGT et Force ouvrière appelaient à une journée d'action pour la défense du pouvoir d'achat et des services publics. C'est ce que sont venus dire ces manifestants rencontrés à Paris.
Ça fait maintenant plusieurs mois avec les Gilets jaunes que des revendications sociales sont portées par les syndicats, les syndicalistes, sur l'augmentation des salaires, sur la défense de nos régimes de retraite également, et dans l'éducation nationale plus spécifiquement pour l'abandon de la loi Blanquer sur l'école de la confiance.
Donc il n'y aurait plus de directeurs et directrices d'école. Donc ça signifie moins de proximité. On se demande qui va gérer les problèmes au quotidien, qui s'occupera des élèves, qui les connaîtra, qui connaîtra les familles, qui fera du lien.
Je suis en colère contre le fait de comment on maltraite les traités. Le gouvernement, eh bien, il ne fera rien pour les travailleurs, rien pour les retraités, parce qu'il est au service des riches.
Témoignage recueilli cet après-midi à Paris au micro Europe 1 d'Emmanuel Calafiore. Comme souvent, le comptage des manifestants donne lieu ce soir à de grands écarts. Ils étaient 130 000 à défiler selon la police dans toute la France, 350 000 selon la CGT. À Paris, un comptage réalisé par un cabinet spécialisé pour le compte de plusieurs médias donne le chiffre de 17 500 personnes qui ont défilé contre 50 000 pour la CGT, 12 000 pour la police. Un navire humanitaire saisi par la marine italienne. Ce soir, le Mare Jonio était bloqué au large de l'île de Lampedusa. Les membres d'équipage vont être interrogés. 48 migrants se trouvent à bord. Ils ne mettront pas les pieds en Italie avec mon autorisation, a déclaré ce matin le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini.
Europe 1, le journal de la nuit. François Geffrier.
22h06 sur Europe 1. Deux décisions apparemment contradictoires dans l'Église catholique aujourd'hui. Son chef, le pape François, a refusé la démission du cardinal Philippe Barbarin, condamné en France à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels dans son diocèse. Le pape explique qu'il veut respecter la présomption d'innocence, car Philippe Barbarin a fait appel. Pour autant, le cardinal archevêque de Lyon annonce qu'il se met en retrait de ses fonctions. Alors, Jean-Luc Bougeon, vous êtes notre correspondant à Lyon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette mise en retrait ?
Eh bien, ça veut dire qu'il s'efface momentanément. Alors concrètement, il laisse le pilotage du diocèse au vicaire général qui s'occupera des nominations, de lancer les grands chantiers, de gérer les choses au quotidien. Le cardinal Barbarin ne célébrera plus de messe, par exemple, il ne célébrera pas celle de Pâques. Mais quoi qu'il en soit, il reste cardinal archevêque de Lyon. De ce côté-là, rien ne change. Il dit dans son communiqué qu'il se met en retrait pour quelque temps. On comprend jusqu'à son procès en appel, procès dont on ne sait pas encore quand il aura lieu. En tout cas, cette attitude est saluée par son avocat, Maître André Soulier.
Sans doute a-t-il besoin de réfléchir, de se reposer, etc. Mais ça me paraît à la fois raisonnable, intelligent et respectueux de la justice et des intérêts des divers partis. Moi, je trouve le geste d'une grande noblesse.
Évidemment, ce retrait temporaire est mal vécu par les victimes du père Prénat, mais c'est surtout le choix du pape de refuser cette démission qui constitue un affront pour Pierre-Emmanuel Germain-Thiel, porte-parole de l'association La Parole Libérée.
On voit clairement que l'Église, pour l'instant, n'avance pas, et on se demande si elle a vraiment l'intention d'avancer, quoi, avec tout ce qui a été révélé, tout ce que les gens ont voulu témoigner au sein même de l'Église pour les aider à avancer, à prendre conscience. Quand on voit cette décision du pape aujourd'hui qui scandalise beaucoup de victimes, j'ai reçu énormément de messages depuis quelques heures, et c'est scandaleux, quoi.
Et puis ce soir, il faut noter aussi la réaction surprenante de la Conférence des évêques de France qui dit s'étonner de la situation inédite du cardinal Barbarin. Visiblement, ce retrait interpelle jusque dans l'Église.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Merci Jean-Luc. Situation dramatique au Mozambique après le passage d'un cyclone la semaine dernière. Ce pays du sud-est de l'Afrique compte plus de 200 morts et s'attend à ce que ce chiffre dépasse le millier. Les dégâts matériels sont très lourds aussi. 23 000 maisons détruites, 30 unités de santé, 500 salles de classe, selon le bilan des autorités mozambicaines. Un report du Brexit aurait un coût non négligeable, prévient Bruxelles. Alors que Theresa May, première ministre britannique, s'apprête à envoyer un courrier pour demander de repousser la date du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les pays de l'Union font pression. Paris prévient qu'un report du Brexit au-delà du 29 mars n'est ni évident, ni automatique. Et selon l'INSEE, on y revient, l'Institut de statistique français, un Brexit dur pourrait amputer le PIB de la France d'1,7% à long terme. À suivre, un rassemblement plein d'émotions cet après-midi à Marseille pour la mémoire de Marie, cette étudiante de 21 ans poignardée à mort dimanche à Marseille. À tout de suite.
Le journal de la nuit, François Geffrier sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Elle s'appelait Marie, elle avait 21 ans, elle était étudiante en anthropologie, elle a été poignardée, semble-t-il, pour son téléphone portable après l'agression de dimanche soir à Marseille. Un rassemblement aujourd'hui sur le campus de la fac où elle étudiait. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, dont la famille de la victime et sa maman qui a lancé un appel contre l'indifférence. Vous étiez présente à cet hommage, Nathalie Chevance.
Oui, dans la cour de la fac de lettres, là où Marie-Bélaine étudiait l'anthropologie, hommage rendu en présence de sa famille, ses deux frères et sa mère venus d'Alès dans le Gard pour pousser un cri de douleur, de colère aussi, mourir pour un vol de téléphone portable. Marie faisait un mémoire sur le rouge à lèvres, la féminité, une élève passionnée par ses études, qui laisse une maman en pleurs, mais qui a trouvé la force de lancer un appel contre l'indifférence.
Avec ce cri silencieux et ardent au fond de ma gorge, j'imite la carpe. La maman de poisson de Bobby Lapointe que je te chantais. On ne voit pas les larmes des poissons dans l'eau qui fait le doigt d'honneur à la violence. Nonobstant, il me paraît essentiel d'avertir, de prévenir, ouvrons les yeux et refusons l'indifférence et la peur. Agissons, il faut réagir, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas permettre ça? Parce qu'aujourd'hui c'est moi qui pleure, mais demain c'est peut-être vous ou une autre dame.
Et Marie s'était déjà fait agresser à Montpellier il y a quelques mois, personne n'avait réagi à l'époque si ce n'est en filmant la scène au téléphone portable. À Marseille, son meurtrier court toujours et reste désormais dans le hall de la fac où elle étudiait, sa photo au-dessus d'un bouquet de fleurs.
Merci Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. On a reparlé aujourd'hui de ces attaques antispécistes qui avaient marqué l'actualité l'an dernier. Des boucheries du Nord avaient été couvertes de tags et vandalisées. Le procès des personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces actions s'est ouvert à Lille cet après-midi. Lionel Gougelot pour Europe 1 a assisté à cette journée d'audience.
En garde à vue, les deux principaux prévenus, un couple d'une trentaine d'années, avaient avoué et même assumé les faits reprochés. Plusieurs tentatives d'incendie volontaire contre un fast-food et deux restaurants de grillade, à chaque fois des centaines de milliers d'euros de dégâts. Mais devant le tribunal, ce sont trois jeunes femmes et un jeune homme un peu paumé qui font finalement profil bas. Ces actions de vandalisme, ces incendies, ces cocktails Molotov, dit l'un d'entre eux, c'était pour donner de la visibilité à la cause antispéciste. Je n'avais pas mesuré les conséquences de mes actes. Argument repris par Barbara Bach, l'une des avocates de la défense.
Le but aujourd'hui, c'est de démontrer que les antispécismes, et notamment ma cliente, ne sont pas des hystériques extrémistes, mais des personnes tout à fait bienveillantes et qui pensent d'abord aux animaux, sont des personnes qui travaillent, qui sont intégrées et qui ont des valeurs.
Mais les commerçants, restaurateurs, victimes de ces actions violentes, ne croient pas un mot des regrets de ces militants. Laurent Rigaud, président du syndicat des Bouchers du Nord, attend maintenant une réponse ferme de la justice.
Ceux qui viennent par la violence, par les incendies, vouloir faire passer leur mode de consommation, c'est seulement inacceptable. Pour nous, c'est même du terrorisme. Nous, les artisans, les commerçants de proximité, on ne peut pas accepter qu'il y ait des fous furieux comme ça qui se servent des Hauts-de-France comme terrain de jeu pour passer leurs idées.
Le procureur requiert 6 et 10 mois de prison ferme pour le couple de meneurs, du sursis pour les autres détenus. Le jugement sera rendu le 8 avril prochain. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
François Geffrier sur Europe 1.
Un nuage de moins dans le ciel au-dessus du PSG. Le club de foot parisien risquait une lourde sanction au titre du fair play financier. Julien Froment, vous suivez pour Europe 1 toute l'actualité du club de la capitale. Aujourd'hui, on peut dire qu'il s'en est bien sorti.
Alors c'est une victoire sur la forme et non sur le fond. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, n'est pas là pour dire si Paris respecte ou non le fair play financier. On le rappelle, le fair play financier, c'est ne pas dépenser plus d'argent qu'on en gagne. Mais le TAS a donné raison au club car la demande de réexamen de ses finances a été faite trop tardivement. L'enquête sur les comptes du PSG est donc clôturée et définitive. Décision saluée par la direction et qui va donner beaucoup d'air, me glisse-t-on, au club qui compte bien poursuivre son développement. Pour autant, Paris n'est pas sorti d'affaire car en juin prochain, à nouveau, il devra présenter ses comptes au fair-play financier. Il y a toujours les transferts de Neymar et Kylian Mbappé pour 400 millions d'euros à amortir. Au rayon des bonnes nouvelles, le nouveau contrat avec le groupe Accor estimé à 60 millions d'euros. Et puis le merchandising qui devrait rapporter aussi gros. En revanche, l'élimination en Ligue des Champions, c'est des dizaines de millions d'euros en moins. Le PSG pourrait être contraint de vendre des joueurs cet été pour rester dans les clous. Mais peut-être un peu moins avec la décision de cet après-midi.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Sa sœur l'avait tenté sans succès à son tour. Florent Manaudou veut faire son retour dans les bassins. Champion olympique sur le 50 mètres nage libre à Londres. Il vise les JO l'an prochain à Tokyo et ceux de Paris en 2024. Après 3 ans de pause, rien n'est impossible, selon Julien Issoulier, directeur technique de la natation française.
Oui, Florent fait partie des sportifs et notamment des nageurs qui ont des qualités exceptionnelles. On l'a vu nager cet hiver très vite en petit bain, alors qu'il ne devait pas être spécialement préparé pour ça. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur sa capacité à revenir. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas lui mettre plus de pression. S'il revient, c'est forcément pour aller chercher des titres et des médailles. Maintenant, à lui de s'entraîner, de reprendre la forme, peut-être de reperdre un peu de poids. Et puis après, il a tout pour y arriver. Donc c'est à lui de se remettre dedans tranquillement et de nous montrer de quoi il est capable.
Le directeur technique de la natation française, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou. Il est 22h15, on retrouve Elena Morna. Elena, vous nous annoncez un festival de bonnes nouvelles jusqu'en fin de semaine.
Et même jusqu'à la fin du mois, François. Tout ça grâce à l'anticyclone des Açores qui se positionne sur la Bretagne pour les trois prochains jours. Alors il va ensuite se décaler légèrement sur le proche Atlantique ce week-end. Résultat pour demain. Pour commencer, ça nous donne une matinée encore un peu fraîche, c'est vrai, avec quelques gelées sur le Grand Est ou sur le Sud-Ouest, sous un ciel clair. Un peu moins clair sur les bords de Manche et les Pays de la Loire, sous les nuages ou dans le brouillard, pareil pour le Pays Basque. Mais ça s'arrange l'après-midi, davantage d'éclaircies au nord, du soleil au sud, des températures qui se radoucissent par rapport à aujourd'hui, 10 degrés au moins à Boulogne-sur-Mer, 12 à Épinal et Belfort, 13 au Havre comme à Quimper et Pontarlier, 14 à Lille, Nantes, Strasbourg et Auxerre, 15 pour Paris, Angoulême, Bordeaux, Toulouse, Lyon, 16 à Grenoble et Ajaccio, 17 à Cahors et Toulon, 18 pour Marseille, 19 pour Nîmes. Pour l'heure, on ne voit pas l'anticyclone voyager plus loin que le proche Atlantique d'ici la fin du mois. Nous devrions donc conserver cette très belle lumière printanière.
Merci Elena Morin, on vous retrouve à minuit pour un nouveau point météo.
Europe 1.
Il est 22h16, dans un instant les marchés financiers avec Claire Lemaître de Boursier.com, elle vient de rentrer dans ce studio. Puis l'invité écho, le patron d'Heineken France et enfin les unes de la presse de demain. On va ouvrir les journaux avant de retrouver Sophie Peters pour la Libre Antenne.
Europe 1, le journal de la nuit. François Geffrier.
22h17 sur Europe 1. Bonjour Claire Lemaître. Bonsoir plutôt.
Bonsoir François.
De Boursier.com, c'est le moment de faire un point complet sur les marchés financiers. Ils ont beaucoup hésité, en tout cas ce soir à Wall Street.
Oui, des marchés partagés avec un Dow Jones qui recule de 0,10%, 25 887 points. Le Nasdaq résiste un peu mieux, en hausse de 0,12%, 7 724 points. Alors du côté positif, on a des investisseurs qui attendent le verdict de la Fed demain et qui parient toujours sur une politique accommodante de la Banque centrale américaine pour soutenir l'économie. Et puis du côté des mauvaises nouvelles, on a ces négociations sur le commerce qui traînent en longueur entre les États-Unis et la Chine et des discussions qui semblent encore calées ce soir. Les valeurs technologiques sont partagées. Apple perd 0,8%, mais c'est une hausse de 1,1% pour Alphabet, la maison mère de Google, qui va lancer un service de jeux vidéo en streaming. Et puis Boeing regagne un peu de terrain après sa glissade des derniers jours, plus 0,3% pour l'avionneur. Son PDG déclare ce soir avoir pris des mesures pour assurer pleinement la sécurité du 737 MAX après les deux accidents mortels. Côté devise, l'euro gagne un peu de terrain, plus 0,1%, 1,1353$.
Claire Lemaître, on regarde le marché parisien qui enchaîne une septième séance dans le vert.
Oui, avec encore une petite hausse pour le CAC 40, plus 0,24%. On est à 5426 points. Le CAC soutenu comme les autres indices européens par le secteur automobile. Ça spécule ce soir sur un éventuel rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler. À Paris, Peugeot, l'équipementier Valeo, mais aussi Renault sont dans les premières positions du CAC 40. Et puis du vert aussi pour Iliad, plus 2,8%. Iliad qui s'est repris après avoir mal démarré la séance. La maison mère de Free a encore perdu des abonnés en fin d'année dernière.
Et puis on a vu aussi une très belle séance pour le secteur du luxe.
Avec de fortes progressions pour Kering, le propriétaire notamment de la marque Gucci qui bondit de 2,7%. Hermès avance de 1,4% et plus 1% pour LVMH, le numéro 1 mondial du secteur. En baisse, Danone perd 0,5%, pénalisé par un commentaire défavorable à des analystes de la banque Jefferies. Ailleurs en Europe, c'est l'optimisme qui règne avant le verdict de la Fed demain. Francfort bondit de 1,1%, Londres gagne 0,3%, plus 0,9% pour Milan et pour Madrid, plus 0,8% pour Bruxelles et le CAC 40 gagne 0,2%, 5426 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître, bonne soirée de boursier.com. Il est 22h20, voici le moment de l'interview écho chaque soir avec vous Emmanuel Dutheil. Ce soir, pas de pression, quoique vous recevez un patron du monde de la bière.
Bonsoir Pascal Sabrier.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président d'Heineken France. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous annoncez pas mal de développement, notamment vous voulez accélérer sur les bières sans alcool. On va y revenir dans un instant, mais juste avant, cette crise des gilets jaunes, on a vu bien évidemment encore l'impact à Paris ce week-end, mais dans de très nombreux centres-villes. Est-ce que depuis que ce mouvement existe, donc depuis maintenant 18 semaines, est-ce que vous avez une baisse de la consommation dans les cafés-restaurants que vous servez, vous, notamment du côté de chez Heineken ?
Non, on ne constate pas d'effet gilet jaune sur nos ventes et dans les ventes de nos clients. Bien évidemment, certains d'entre eux se sont touchés, que ce soit directement ou indirectement, dans certains centres-villes qui régulièrement le samedi font l'objet de manifestations.
Mais en tout cas,
mais
au niveau national,
au global,
quand on regarde la
grosse... global, ça doit se compenser parce qu'on ne voit pas d'impact de ces manifestations sur nos ventes.
Alors, ce marché de la bière est un marché qui avait reculé pendant une trentaine d'années. Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs le savent. Et depuis 5-6 ans, ça y est, le marché de la bière est en croissance. Et s'il est en croissance, c'est notamment parce que des groupes comme vous, mais pas seulement vous, vous avez beaucoup investi sur la bière sans alcool. Et vous allez même lancer l'une de vos bières d'abbaye, hein, la bière Affligen. Vous allez la lancer là aussi totalement sans alcool. C'est vraiment aujourd'hui le marché qui cartonne, la bière sans alcool ?
C'est un des marchés qui cartonne, mais j'imagine qu'on va y revenir ensuite, on parlera de la bière plus généralement. Mmh. Oui, le marché de la bière sans alcool se développe fortement hein, depuis 2-3 ans. Hein, c'était un marché très ancien, hein, mais qui s'était assoupi. Et avec un certain nombre d'initiatives, de nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché, dont Heineken 00, hein, il y a 2 ans, en 2017.
Et vous, c'est vraiment pour signifier 00, c'est qu'il y a 0 degré d'alcool.
Voilà, pas d'alcool dans le produit, 00, c'est très clair. Et je pense que le consommateur comprend quelque chose très directement et donc est intéressé, essaye et rachète.
Mais qui boit de la bière sans alcool ? Est-ce que c'est le public de puristes habituels de la bière ou ça vous permet de faire venir des nouveaux publics ? Notamment, on dit que les femmes peut-être entrent sur le marché de la bière par la bière sans alcool.
Oui, alors on constate que l'offre 00 a élargi le public de la bière sans alcool. Historiquement, le consommateur type de bière sans alcool était un homme de plus de 50 ans. Avec Heineken 00, on constate que ces consommateurs s'élargissent. Ce sont maintenant des gens plus jeunes, plus de femmes qui viennent, qui essayent ces produits. Et il y a un chiffre qui est très important pour nous et qui fait qu'on croit vraiment à la bière sans alcool 00. C'est le fait que 66% des consommateurs de Heineken 00, les deux tiers de ces consommateurs, n'étaient pas consommateurs de bière sans alcool avant d'avoir essayé la 00.
Et justement, j'imagine que c'est pour ça que vous voulez développer ce qu'on appelle des linéaires dans les supermarchés. Donc, c'est les endroits où on trouve vraiment les bières bien spécifiques pour la bière sans alcool, qu'elles ne soient pas mélangées au milieu de tout. Et pareil, du côté de nos cafés-restaurants, vous voulez qu'il y ait une offre très claire. C'est parce que justement, c'est un public différent, un public à côté.
C'est surtout qu'il faut la faire connaître, il faut la faire voir. Hein, quand vous allez dans un hypermarché ou un supermarché aujourd'hui, le marché de la bière, c'est extraordinairement diversifié. Vous avez énormément d'offres et vous ne voyez pas forcément cette nouvelle offre 00. Donc, ce que nous, on a décidé de faire, c'est de la regrouper. Hein, de la regrouper dans ce qu'on appelle des zéro zones, des endroits où il y aura toute l'offre 00, tous nos produits 00.
Mais au point, par exemple, de la retrouver plutôt du côté des colas où il n'y a pas d'alcool ?
Non, ça restera dans le linéaire bière, hein, parce que c'est une bière. Ouais. Hein, c'est très, très important que ce soit perçu, compris comme étant une offre bière particulière. Mais donc, ça va être regroupé dans des meubles qui sont réfrigérés. Hein, et donc, vous les verrez. Vous mentionnez les cafés, hôtels, restaurants. C'est très important aussi de bien faire ressortir cette offre 00. Alors là, c'est avec des systèmes pression particuliers, hein, parce que la bière sans alcool est un peu plus fragile que la bière alcoolisée, et donc elle a besoin de systèmes pression qui sont adaptés. Donc on a développé des petits systèmes pression avec des fûts de 8 litres qui nous permettront de distribuer de la bière 00 à la pression.
Alors ça, c'est pour le marché sans alcool. On voit que c'est un marché qui pousse, mais pas seulement. Ce qui explique également le retour du marché de la bière, c'est tous ces petites bières d'abbaye. On a tous vu ces petites brasseries qui se sont lancées et qui vous ont quand même obligé, vous les géants, que ce soit vous Heineken, que ce soit Kronenbourg ou autre, à repenser un petit peu l'offre, à remettre aussi un peu mieux vos bières d'abbaye, comme on dit. C'est ça, l'autre pan aujourd'hui qui permet au marché de la bière de bien se tenir.
Oui, alors le marché de la bière a retrouvé le chemin de la croissance il y a 6 ans. Hein, vous le disiez vous-même. 2018 a été une très très belle année pour la bière. Hein. C'est même le marché de l'ensemble des produits de grande consommation qui aura eu la croissance en valeur la plus importante.
3-4% de progression,
c'est ça ? 8% de progression, ouais. Donc soit le double hein, des produits de grande consommation. Et ce, grâce bien évidemment à une diversification, hein, c'est ce que vous disiez, une diversification de l'offre, qui est à la fois le fait, vous avez tout à fait raison, de ces petites brasseries qui arrivent aujourd'hui. Hein, on parle de 1600 brasseurs en France aujourd'hui.
On
mais
a le record,
c'est aussi,
je crois, en France.
Absolument.
Alors qu'on est de très loin, pas ceux qui boivent le plus de bière en Europe.
Non, mais on commence à bien se développer. Donc ces petites brasseries, mais aussi le fait des grands brasseurs comme nous. Hein, Heineken en France est le premier brasseur français. La marque Heineken est la première marque de bière en France et on innove énormément. 10% du chiffre d'affaires de Heineken en 2018 était le fait de ces innovations. Okay. Et c'est ça aussi qui tire le marché de la bière vers l'avant.
Et ça va continuer d'après vous en 2019 parce qu'il n'y a pas de gros événements. Alors il y a la Coupe du Monde de football féminine, il y a ce genre de gros événements sportifs, mais il n'y a pas le super gros événement qui est un élément généralement capital de la bonne tenue du marché de la bière en France.
Alors vous avez raison de le souligner, hein. En 2018, on a été servi par les événements, on a eu cette Coupe du Monde que la France a gagnée, donc ça, évidemment, ça nous a tiré. Mais il y a une tendance de fond, hein. Quand on retire les volumes qui ont sans doute été apportés par ces événements ponctuels, on trouve une croissance encore très significative de l'ordre de 4 à 5 %.
On m'a dit que vous êtes l'un des secteurs le plus météo-dépendant, c'est-à-dire que vraiment à 1 degré ou 2 degrés près, on va surconsommer ou sous-consommer de la bière, c'est vrai ça ?
Oui, oui, la bière est extrêmement sensible à la météo, hein. Quand il fait beau, ben, les terrasses des cafés se déploient, les gens s'assoient et puis à quoi on pense ? À boire une bonne bière bien fraîche.
Donc la première chose que vous faites en arrivant au travail le matin, c'est regarder la météo des jours à venir.
Je regarde la météo, on analyse la météo en permanence parce que, eh bien évidemment, nos trois brasseries en France sont sous pression, hein, c'est le cas de le dire. Quand le soleil est de la partie, c'est notre meilleur vendeur. Hein, et donc, bah, il faut savoir prévoir avec la météo.
Pendant quelques temps, ce qui avait aussi permis à ce marché de la bière de redémarrer et qui avait aussi permis aux femmes d'arriver sur le marché de la bière, c'était les bières aromatisées. On a l'impression que c'est un poil moins à la mode.
Non, elles sont toujours aussi là, hein, ces bières aromatisées. Et une de celles qui est la plus connue, hein, c'est Desperados, ouais. Hein, qui est une des bières de notre groupe, hein, qui est maintenant la cinquième marque en France, hein, en volume, et qui continue à se développer de façon très forte. Hein, elle a une croissance de son chiffre d'affaires en 2018 de l'ordre de 12%.
Ça reste un des éléments qui explique aussi.
Donc ça tire, et là aussi, il y a énormément d'innovation.
Et ben merci beaucoup d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Pascal Sabrier, le président d'Heineken France, était notre invité. On se retrouve demain 22h20 sur Europe 1.
Merci Emmanuel Duteil, vous avez bien travaillé. Allez donc boire une petite bière avec modération, évidemment. Dans un instant, les journaux. La presse de demain n'est pas encore imprimée, mais on l'a déjà lue. On vous en livre un extrait sur Europe 1 dans 2 minutes. Il est 22h28, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Voici quelques-uns des titres de la presse de demain, mercredi 20 mars 2019. À la une de La Croix, la décision surprise du pape. Le pape François a refusé, au nom de la présomption d'innocence, la démission du cardinal Philippe Barbarin, qui se met toutefois en retrait de son diocèse. C'est la une du quotidien catholique avec cette photo des deux hommes qui se sont rencontrés aujourd'hui. On voit le pape qui serre la main du cardinal Barbarin et qui lui tient le bras en même temps. Dans son éditorial, Guillaume Goubert souligne que la décision du pape, si elle est fondée humainement et juridiquement, a cependant un lourd inconvénient, celui de donner l'image d'une église qui se tient à distance du trouble ressenti dans l'opinion, mais aussi par de nombreux fidèles. À la une du Figaro Économie, l'expansionnisme chinois divise l'Europe. On voit cette photo du président Xi Jinping qui arrive jeudi à Rome pour acter l'entrée de l'Italie dans son vaste projet, les routes de la soie, un projet qui inquiète Paris, Berlin et Bruxelles. À la une de l'autre quotidien économique, les Échos, l'économie française fait preuve de résistance. L'INSEE table sur une croissance supérieure à celle de la zone euro pour le premier semestre 2019, Cocorico. Et puis 2 millions de salariés ont bénéficié de la prime défiscalisée en janvier. Vous savez, c'est cette fameuse prime Macron jusqu'à 1000 euros sans impôt ni charge qui avait été annoncée par le président de la République début décembre. À la une des Échos également, comment Doctolib a réussi à s'imposer dans la santé. La pépite tricolore vient de lever 150 millions d'euros pour une valorisation d'un milliard. Son PDG se confie aux Échos. À la une d'Ouest France, la viande transformée envahit les assiettes des Français. Pizza, sandwich, plat tout prêt. La viande dite transformée est de plus en plus présente dans nos assiettes. À contre-courant de la baisse globale de la consommation de viande, les producteurs français sont contraints de s'adapter. Et puis demain, nous sommes mercredi, alors à la une de Ouest France, il y a aussi un peu de cinéma. Lindon en Casanova est conduit avec Dernier Amour. C'est le film, prochain film, dernier film de Benoît Jacquot. Il se frotte à nouveau au film historique. Il attaque cette fois, s'attaque à Casanova, bourreau des cœurs, métamorphosé en amoureux transi, campé par Vincent Lindon. Il est 22h30, vous le savez, c'est l'heure de la libre antenne. Bonsoir Sophie Peters.
Bonsoir François.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, je suis heureuse de ce passage d'antenne avec vous. On vous retrouve dans quelques minutes,
oui, si
une vingtaine de minutes. Absolument,
à tout à l'heure.